Oui, une question a été posée à la suite d'une conversation au sujet des hôtels. Quelqu'un a vu un hôtel, pour ne rien cacher, celui de Notre-Dame, le nouvel hôtel de Notre-Dame de Paris, et qui trouve que c'est très 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 bien, parce que c'est une œuvre d'art magnifique. Et c'est ça qu'il faut dans une église. Heureusement qu'on a des choses comme ça. Je résume un petit peu. Ça, pas moi, ça a été dit, sans quoi il y aurait eu une réaction immédiate. Mais je vous la redonne à froid, plus tard. Sur la notion d'œuvre d'art avec l'hôtel de Notre-Dame, je laisse la totale responsabilité de l'expression à la personne qui l'a exprimé. Inutile de vous dire que ce n'est pas exactement mon avis. Peut-être que c'est de l'art à un certain point de vue, peut-être. Mais en tout cas, ça rentre difficilement dans le cadre de l'art sacré. Or, un hôtel, par définition, devrait être de l'ordre du sacré. Qu'il y ait des symbolismes dedans, des symbolismes ou des symboles de la part de l'artiste, l'architecte ou ceux qui ont présidé à la commande de ces choses, c'est bien possible. Et c'est pas pour autant que les symboles qui ont présidé à cette construction-là soient forcément des symboles chrétiens et transcendants, c'est-à-dire amenant la transcendance. Tout ça pour en arriver à une réaction contre cela. Qu'est-ce que c'est qu'un hôtel ? Dans l'histoire, les hôtels, les premiers hôtels dressés par les Hébreux, on voit Jacob qui en a dressé un, et après beaucoup d'autres, c'était des pierres, souvent 12, comme par hasard, prophétiquement, qui étaient empilées les unes au-dessus des autres. Inutile de vous dire qu'elles n'étaient pas forcément taillées au burin et gravées. C'était, si je puis dire, mais ce n'est pas péjoratif dans mon vocabulaire, c'était, si je puis dire, primitif. Mais c'est pas négatif. Et sur ces autels, qui étaient comme un peu comme les menhirs, si vous voulez, mais bien avant l'époque des menhirs, qui indiquaient en quelque sorte symboliquement le centre du cosmos. C'était comme des pyramides ou comme des obélisques, mais petits, mais peu importe la taille. C'est le symbole qui importe, qui faisait que c'était le centre du monde, et à partir de, c'est-à-dire l'axe entre le centre de la Terre, le centre du monde, et le centre du ciel, donc plus ou moins l'étoile polaire, si vous voulez. Cette espèce d'échelle invisible, mais réelle quand même, qui existe entre le ciel et la Terre, ce que Jacob précisément a vu dans son échelle sainte, là. Où il a vu une échelle dressée, appuyée sur le ciel, tu parles, vous voyez bien le symbole, et des anges monter et descendre. Cette échelle-là, c'est donc l'axe du monde, symboliquement parlant, j'entends, évidemment, et c'est le lien entre le ciel et la terre. Or, quel est le lien entre le ciel et la terre ? Quel est le lien entre le céleste, c'est-à-dire le divin, c'est-à-dire Dieu, et la terre, c'est-à-dire le cosmos, c'est-à-dire le monde? Quel est le lien? C'est le Christ. Donc, prophétiquement, ça représentait déjà le Christ. Prophétiquement. Mais ce n'est que l'ombre, c'est dans l'épître d'aujourd'hui qu'on voyait, ou dimanche dernier, je me rappelle qu'on parlait, que saint Paul parlait de l'ombre et que la réalité ne venait qu'avec le Christ, c'était l'ombre des choses à venir. Et le fait que ce soit des pierres dressées, ça faisait comme le lieu le plus élevé de la terre, symboliquement parlant, parce qu'évidemment les montagnes sont plus grandes. Mais symboliquement, c'est pour la communauté, pour ceux qui étaient là, c'est représenté comme la montagne sur laquelle l'homme, symboliquement, pouvait s'élever. C'est la partie la plus haute de la terre qui touchait le ciel. Que ce soit un obélisque de 30 mètres de haut, ou un autel qui ne fasse qu'un mètre, ou un menhir qui est en face d'eux, le symbole est le même. Et notez que ces symboles-là sont pas des symboles exclusivement chrétiens, c'est absolument universel. C'est l'âme de l'homme, la constitution de l'homme qui est fait comme ça, et qui instinctivement, intuitivement, ou sacramentalement, mystiquement, spirituellement, utilise les moyens de la nature pour les exprimer sa foi et sa relation avec la divinité, avec l'au-delà, suivant les systèmes religieux. Sur ces autels-là, dans l'Ancien Testament déjà, c'est là où sur ces autels-là qu'on offrait les dons à Dieu. C'est sur ces autels-là qu'on faisait des feux et qu'on consommait les sacrifices sanglants qui est offert à Dieu. Vous voyez l'exemple de cet autel-là parmi bien d'autres, avec Élie quand il concourt avec les prêtres de Baal, et que les prêtres de Baal autour de leur idole, vous avez une fresque de notre chapelle qui représente ça, qui se taillade pour qui danse, qui font de la magie quoi, en quelque sorte, pour essayer d'avoir une réponse de leur dieu. Et Élie rigole pendant ce temps-là, c'était pas le terme qu'employait dans la Bible, ça revient au même. Et lui, il attend et voulait voir la forme de cet autel encore dressé. Et comme je vous dis qu'il est le centre du monde, vous voyez Élie qui est tout autour, fait un ruisseau, fait un canal, et dedans il verse des jarres pleines d'eau par-dessus l'holocauste, par-dessus le sacrifice, pour être sûr, pour montrer aux prêtres de Baal que ça peut pas être l'échauffement des pierres ou je ne sais quoi qui a mis le feu d'une manière tout à fait naturelle à l'Holocauste, mais que c'est vraiment l'intervention de Dieu, donc de l'Esprit Saint, qui est descendu sous forme de feu et qui a consumé, le don offert par Élie. Donc, l'autel, c'est ce centre du monde. En plus, c'est le lieu des sacrifices. Passons des figures à la réalité. Quel est le sacrifice, l'unique sacrifice qui plaît à Dieu? C'est le sacrifice, comme sacrifice sanglant, c'est le sacrifice du Christ. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament préfiguraient le sacrifice du Christ sur la croix. Si bien que les autels, j'en arrive maintenant, vous comprenez bien, à l'autel chrétien, puis à l'autel de l'Ancien Testament, encore que j'ai oublié de vous dire quelque chose, l'autel chrétien est le lieu du sacrifice. C'est-à-dire, c'est comme le Golgotha. C'est les autels de l'Ancien Testament, mais transfigurés pour porter le Christ lui-même. Les autels de l'Ancien Testament, les autels, même des autels païens, avaient à chaque angle, étaient plus ou moins carrés, rectangulaires, avait aux quatre angles, il y avait des cornes de bœuf, quatre cornes de bœuf. Et ces cornes-là, symboliquement, représentaient la force du taureau, si vous voulez. Et jusqu'à aujourd'hui, les quatre angles de l'autel, on les appelle aujourd'hui les cornes de l'autel, jusqu'à aujourd'hui. Et quand un évêque ordonne un diacre ou un prêtre, il embrasse à trois reprises les quatre cornes de l'autel. Il embrasse les quatre angles de l'autel. Ça montre l'importance. Et vous avez cette évocation-là dans un psaume dont je ne me rappelle pas le numéro tout de suite, qui fait que le Seigneur monte jusque le roi qui est intronisé monte jusqu'aux cornes de l'autel. Les cornes de l'autel, c'est ça. Dans notre chapelle ici, par-dessus le baldaquin, j'y reviendrai si j'oublie pas tout à l'heure, sur le baldaquin, aux quatre angles, vous avez des cornes qui sont petites, mais qui n'ont plus la forme de cornes, comme des cornes de bœuf, mais qui ont cette forme d'acrotères, qui évoquent les quatre cornes d'une manière traditionnelle. C'est depuis l'église ancienne, depuis l'église des catacombes, on a ces cornes-là. L'autel chrétien est le lieu du sacrifice, par essence. À tel point que, au moment de la grande entrée, par exemple, au moment de la grande entrée de la liturgie, les saints dons, les dons qui ne sont pas encore consacrés, mais qui sont offerts, les dons qui vont être l'objet du sacrifice, l'objet de la consécration, le nouvel holocauste, ces dons-là sont déposés sur l'autel. Après avoir été déposés sur l'autel, le calice d'un côté, le discos avec l'agneau de l'autre, notez que c'est l'agneau, on l'appelle la parcelle de prosphore qui sera consacrée, sont déposés sur l'autel et le prêtre prend le voile, l'aer qu'il avait sur le dos, le remplit de fumée d'encens et le dépose sur le discos et le calice en disant « Le noble Joseph d'Arimathie, ayant descendu de la croix ton corps immaculé, loigné d'aromates, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un tombeau tout neuf. » C'est-à-dire que non seulement l'autel est le lieu du sacrifice, mais il est pour nous l'image, la réalité matérielle, la réalité architecturale, si vous voulez, du tombeau. Il est le lieu du sacrifice et il est le tombeau du Christ. C'est-à-dire pour la raison pour laquelle, une fois que le Christ a été symboliquement mis au tombeau, comme ça, pendant la grande entrée, on ferme porte et rideau. Le tombeau est fermé. Même si on le rouvre après pour donner les bénédictions, au moment, à ce moment-là, il est fermé. La table de l'autel, je l'appelle attentionnellement la table, en grec c'est Aiatrapeza, la sainte table. La table de l'autel représente aussi, évidemment, la table du sacrifice, mais je veux dire la table que le Christ a utilisée dans le cénacle pour offrir le sacrifice sous forme de son pain et de son vin, son corps et son sang qu'il donnait déjà par avance en nourriture à ses apôtres, donc à nous. L'autel, c'est aussi ça, la table de la Sainte Cène. La Sainte Cène, le tombeau, donc aussi, étant donné que c'est représente le tombeau, il est aussi le lieu de la résurrection, en plus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a souvent, dans les grandes églises, même dans notre chapelle, mais c'est pas c'est pas obligatoire, si vous voulez, mais souvent, il y a deux, ce qu'on appelle les exaptériges. Si vous avez bien entendu, dimanche prochain, je vous ferai citer la leçon. Comment ça s'appelle? Et ça veut dire les ciselles. Il y a des figures, souvent maintenant, souvent en métal, mais c'est peut-être un peu en bois peint, des ripidiams, qui sont derrière l'autel, contre l'autel, qui sont des disques ou des octogones ou des sortes d'étoiles, etc., avec des chérubins qui sont peints dessus. C'est-à-dire qu'il y a ces deux figures chérubiques derrière l'autel qui évoquent, qui symbolisent les deux anges que Marie, entrant dans le tombeau, a vu au pied et à la tête du lit mortuaire du Christ dans le tombeau. Ça insiste sur cette... Comme si l'insistance n'était pas assez forte. Par-dessus, quand on peut, traditionnellement, par-dessus l'autel, on met un baldaquin. Quatre piliers, quatre colonnes, par-dessus laquelle il y a un ciel. Et par-dessus ce ciel, il y a un dôme. C'est une reproduction symbolique de l'architecture que Sainte-Hélène a fait construire au-dessus du tombeau du Christ pour montrer ce lien entre le ciel et la terre, encore avec les quatre piliers aux quatre coins cardinaux, quatre points cardinaux, vous voulez, et puis le dôme céleste qui descend dessus. Aujourd'hui encore, l'édicule du Saint-Sépulcre garde encore cette forme-là, bien que elle n'ait plus gardé, ça a été fait, ce qu'on a aujourd'hui a été construit relativement tardivement et n'a plus la sobriété et la splendeur théologique que ça avait à l'époque de Saint-Constantin et de Saint-Hélène. Vous voyez que c'est vraiment le tombeau, puisqu'il y a même par-dessus ce dôme-là. Et ces baldaquins-là ont toujours existé. Vous en avez une foultitude en Occident. Et il n'y en a pas qu'en Occident. Il en demeure encore. À Mont-Athos, toutes les églises principales ont le baldaquin. À la Renaissance, après la Renaissance, comment ça s'appelle ? Baroque. À l'époque baroque, on a encore fait des baldaquins. Le plus célèbre, mais pas le plus pur théologiquement, est celui qui avait été construit par le Bernin, au-dessus de la tombe et des autels successifs, au-dessus de la tombe de Saint-Pierre. Et le symbolisme est là. C'est défiguré, mais c'est là quand même. Et le tombeau est vide. Le Christ est ressuscité. Et pourtant, l'autel demeure. On ne le ramasse pas à chaque fois. Parce que l'autel vide est aussi, parce qu'il est vide, il est plein d'une présence invisible. L'autel est aussi le trône de l'étymatie. Décidément, vous avez beaucoup de vocabulaire à restituer dimanche prochain. Hein. Le trône de l'étymatie. Qu'est-ce que c'est que le trône de l'étymatie? L'étymatie, ça veut dire de l'attente, de la préparation. Le trône de l'étymatie, c'est le trône céleste qui attend le retour du Christ en gloire, pas le Christ de l'Ascension, mais le Christ de la fin des temps, lorsque tout l'homme sera réuni à Dieu. Et à ce moment-là, le Fils de l'homme, le Christ, s'assiera sur le trône qui est en attente. Dans l'iconographie traditionnelle, dès les premiers siècles de l'Église, le trône de l'intimatie était peint ou mosaïqué, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais était représenté en mosaïque comme un trône doré avec des pierres précieuses gemmées, splendides, et sur ce trône des coussins riches et soyeux, même s'ils sont en mosaïque, hein, mais le trône est vide. Il est simplement à la place des coussins, en attendant la venue du Sauveur à la fin des temps. Il y a simplement la croix qu'il nous a donnée en attente, si je puis dire, et comme lien entre le ciel et la terre. Donc l'autel chrétien, c'est aussi le trône de l'intimatie, c'est-à-dire le trône devant lequel on se prosterne et où le maître est à la fois absent, puisque le trône est vide, mais en même temps en attente, donc avec une autre forme de présence. Effectivement, il est absent parce que vous ne le voyez pas, moi non plus d'ailleurs, on ne le voit pas, et pourtant il est là. C'est ça le trône de l'intimatie. Donc nous sommes dans l'attente de la parousie, c'est-à-dire de la deuxième venue, des dernières venues du Sauveur dans le monde. C'est d'autant plus ce trône de l'intimatie, donc de la trône de la fin des temps, donc le trône de l'Apocalypse. Vous voyez, toutes ces images s'imbriquent les unes dans les autres, et pour ne former qu'une réalité. C'est d'autant plus marquant que c'est vraiment le trône, que l'autel est vraiment le trône de l'intimatie, que derrière, quand c'est possible, il y a un chandelier à 7 branches, qui est le cas dans notre catholicone. Ce qu'hélas, les Grecs ont souvent abandonné, parce qu'ils pensent que c'est typiquement russe. Et comme surtout pas, le philétisme oblige, montrer que c'est russe, on a plutôt tendance à les enlever. Et c'est dommage. Souvent on croit aussi que c'est un rappel, ce qui n'est pas complètement faux, mais qui n'est pas vrai du tout, ce qui serait un rappel de l'Ancien Testament, que ce serait le chandelier à ses branches qui était allumé le soir au moment de vêpres, au temple enchanté de lumière joyeuse, et qui représentait la lumière qui devait venir. Et effectivement, ça évoque un peu le chandelier, la mémora de l'Ancien Testament. Cependant, ce n'est pas à cause de la mémora que l'on met cette raison, c'est à cause du chandelier à 7 branches que Saint Jean a vu dans l'Apocalypse et qui était le signe de la lumière divine. C'était une transfiguration du chandelier, de la mémora, du chandelier du temple. Et c'est ce chandelier, cette lumière, à cette bougie, comme les 7 jours de la création, comme les 7 siècles du monde, qui sont allumés et qui nous mènent vers la fin des temps, parce que la 8e lumière, c'est la lumière du vrai soleil, le Christ. C'est l'Obdoad, le 8e jour, la 8e lumière. Donc quand nous sommes devant l'autel avec cette branche, nous sommes encore dans la perspective de l'Apocalypse. Nous sommes dans la venue, dans l'attente de la venue de la lumière sans déclin. Alors après, allez me chercher une œuvre d'art. C'est ça l'autel. C'est la raison pour laquelle on vénère toujours un autel. Même un autel désaffecté. Comme on a dans nos vieilles églises, quelquefois en ruine, un autel est toujours vénérable. Même s'il ne sert plus, l'autel est hors du temps. Il est dans le temps, évidemment, mais il est hors du temps. Sa signification, c'est autre chose. Alors je pense certainement que les gens très intelligents qui ont conçu l'autel de Notre-Dame avaient dû penser à tout ça pour leur réaliser. Question ?
Je parle de la proscomédie, elle ne se fait pas sur l'autel.
Non, la proscomédie, elle ne se fait pas sur l'autel, elle se fait sur une crédence, sur un autel secondaire, sur le côté nord, le côté à gauche, quand on regarde l'autel, à gauche de l'autel. Elle est faite d'une manière cachée, et parce que c'est une symbolisation de tous les sacrifices de l'Ancien Testament qui justement n'étaient qu'une ombre, il n'y avait rien à voir dedans. Il n'y a rien à voir et pourtant ça révélait quelque chose. Donc c'est encore caché. Et il y a une tendance, hélas, une tendance à vouloir aujourd'hui dans certains milieux orthodoxes faire la proscomédie à l'extérieur de manière à ce que tout le monde voit. Mais à partir du moment où on le voit, ça n'a plus de sens. C'était justement manifester quelque chose qui ne se voyait pas. C'est la même chose quand on veut faire tomber l'iconostase ou laisser les portes ouvertes en permanence pour que les fidèles puissent voir ce qui se passe à l'autel. Mais je vous assure que celui qui est à l'autel ne voit pas davantage de choses que vous. Ce qui se voit, c'est que quelques gestes, simplement, qui ont une signification, mais qui ne sont que l'image d'une autre réalité, une réalité invisible, si bien que l'évêque, les prêtres, les diacres, les servants, n'en voient pas plus que ceux qui sont de l'autre côté de l'iconostase, même quand les portes sont fermées. Dans l'histoire de l'Église, ça remonte à l'époque des catacombes. On célébrait des liturgies eucharistiques dans les catacombes sur le corps, dans les tombes, avec un arcosolium, c'est-à-dire un arc. Et il y avait une plaque de marbre qui était au-dessus du défunt. Et là, on célébrait une fois par an le jour du défunt, c'est-à-dire de l'anniversaire de la mort du défunt. On y célébrait la liturgie. Et on choisissait de préférence, ou on le faisait intentionnellement, plutôt sur les tombes des martyrs. À partir de là est née cette habitude de mettre effectivement des reliques dans les autels, des reliques de martyrs dans les autels. Ça n'a pas été universel. Quelquefois, il y avait d'autres reliques de non-martyrs, mais rarement. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une loi, disons, qui est restée dans l'Église de toujours célébrer la liturgie en communion avec ceux qui se sont donnés totalement corps et âme par le martyr au Christ. C'est une manière d'exprimer le don total de la personne. C'est une manière d'exprimer la communion entre le monde des vivants que nous sommes et des morts sur lesquels on célèbre la on célèbre l'Eucharistie. Mais ça n'a pas toujours été universel. Et quand on n'a pas nos autels, quand nos autels n'ont pas de reliques, on a des autels portatifs qui, au Moyen-Âge occidental, étaient une plaque de marbre, 30 sur 30 à peu près, en gros, grosso modo, 30 sur 30, quelquefois avec des serties dans du métal, hein, qui était une pierre d'autel dans laquelle il y avait des reliques qui étaient scellées dedans. Et comme ça, on pouvait les emmener en voyage pour célébrer l'Eucharistie à un endroit ou à un autre sur une pierre d'autel de voyage, si je puis dire. Dans l'orthodoxie, les autels sont consacrés de la même manière, mais nous n'avons pas de pierre transportable. En revanche, nous avons un antimotion, c'est-à-dire un linge, sur lequel sont inscrits les signes de la passion, c'est-à-dire le tombeau, la croix, le Christ debout dans le tombeau, c'est-à-dire ressuscité, des anges, et souvent l'échelle pour aider pendre le Christ, les clous, enfin, vous voyez, toutes les images de la passion, plus les quatre figures des évangélistes et liées avec les quatre animaux de l'Apocalypse selon Ézéchiel et Saint Jean. Et dans ce linge qu'on appelle l'antimension sont cousus souvent quelques reliques, normalement c'est trois, qui peuvent être toutes petites, trois reliques des saints martyrs. Donc ça dure toujours.